Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Alors, des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Oui. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis.
Bonjour tout le monde. De Chavannes cherche copains. Et là, non, De Chavannes cherche copine. Puisque j'ai en face de moi une certaine Bachelot Roselyne.
Elle-même.
Oui. Ravi de vous voir, on se connaît un peu.
Un peu.
Je ne sais pas si on se tutoie, on se voyait, je crois qu'on s'est toujours vous voyez.
On s'est toujours vous voyez, je suis une vieille dame.
Beaucoup de respect. C'est vrai, 92 ans, vous êtes formidable.
Oui, je ne l'ai fait pas.
Ah non. Vous êtes hyper, comment on dit ?
Impressionnant.
Ah oui, vous êtes très très bien conservé, comme on dit élégamment. Non, on peut dire votre âge, parce que vous le dites partout, c'est pas...
Moi, 76.
Moi, on m'a toujours appris, il ne faut pas dire l'âge des dames.
Je suis très fier de mon âge.
Ben vous pouvez, parce que vous avez le cerveau qui est un peu plus rapide que celui qui aurait 76 ans, et vous avez les yeux qui pétillent, vous avez un sourire magnifique. Vous avez déjà été dépressive ?
Jamais.
Jamais de votre vie ?
Non. J'ai été triste.
Ouais.
J'ai été accablé dans les moments difficiles de la vie, mais dépressive. D'abord peut-être parce que comme je suis une professionnelle de santé, la dépression, ça a un sens précis pour moi avec des symptômes, etc. C'est un mot qui est employé à tort et à travers maintenant. Je suis en déprime, je suis en dépression.
Non, professionnelle de santé qui a eu des emmerdements à une certaine époque où vous avez fait une grosse commande d'un nombre de vaccins qui était dit... Et ensuite, le coup des masques arrive, là, Covid arrive, il n'y a pas de masque, machin, et on dit, finalement...
Elle avait raison, Bachelot,
oui, c'était bien d'ouvrir une prévention,
un parapluie. C'est-à-dire que c'est drôle, parce que c'est un médecin qui m'a raconté que dans des hôpitaux, où il y avait des stocks de masques qu'on a été content de retrouver au moment du début de l'épidémie de Covid...
Il n'y en a pas beaucoup, hein.
Oui,
ils en avaient brûlé un paquet. Hein.
Oui.
Des millions.
Et donc, on les appelait des bachelots.
Ah, je ne savais pas. Pourtant, j'étais proche d'un médecin, mais je ne savais pas. Combien ils en ont brûlé de millions avant le Covid ?
Ça, je ne sais pas. Je n'étais plus aux affaires, comme on dit. Mais voilà, ils ont estimé que les masques ne resserviraient plus. Et puis, vous savez, il y a des normes qui sont la masque, il y a une date de péremption.
Oui, mais
moi, je mange
fout.
Des yaourts qui sont déjà périmés.
Le yaourt, il ne décide pas quand il y a marqué 14, dans la nuit du 13 au 14, il va tourner.
Voilà.
Donc, vous mangez jusqu'à combien de péremption ? Un mois ? Trois semaines ?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
D'abord, j'ouvre.
Oui.
Et je renifle.
Non, d'abord, je regarde. Ouais. D'abord, je regarde si c'est gonflé, moi.
Voilà, exactement.
Si c'est un peu gonflé.
Oui, il faut mieux jeter.
Comment allez-vous ? Parce qu'en fait, on a grosso modo jamais autant parlé de vous. On vous voit.
Peut-être.
On vous voit partout. Mmh. On vous entend. Avec le camarade qui était précédemment assis.
Avec Laurent Ruquier, voilà. On se fait une ou deux grosses têtes par semaine.
C'est beaucoup.
J'ai trois émissions sur BFM TV.
Je sais, je vous vois tout le temps.
Et j'ai... On refait le monde avec le camarade Brunet le RTL. Mardi sur RTL. Plus les invitations.
Est-ce que vous avez pensé un jour, quand vous faisiez cette carrière politique, que vous deviendriez, entre guillemets, chroniqueuse professionnelle ?
Non, mais la presse, c'était quand même quelque chose de très fort dans ma famille, puisque mon père, résistant, a fait partie de ces types qui sont sortis du maquis à qui le général de Gaulle a confié la rédaction d'un journal.
Okay.
Vous savez, on avait liquidé les rédactions qui avaient été collaborationnistes, c'est-à-dire à peu près tout 100% des journaux qui paraissaient
avec,
en France.
Avec En Tête, Je suis partout.
Voilà. Et puis, il y a les journaux qui n'étaient pas aussi marqués que Je suis partout, mais qui quand même fricotaient avec les Allemands. Donc, mon père est devenu rédacteur en chef du Berry Républicain.
Ok.
À la Libération. Et voilà. Et donc, on s'est toujours intéressé à la
presse. Et vous êtes berrichonne ?
Comment ça ?
Vous êtes berrichonne ?
Non, pas du tout, je suis nivernaise. Et quand je suis rentré en politique, mon père, qui avait continué à être journaliste, il a fondé une radio, des journaux, etc., m'a dit : je te donne trois conseils que tu ne dois jamais oublier. Un journaliste n'est jamais ton ami. Tu penseras qu'il l'est chaque fois qu'il pourra te trahir, il le fera. Deux, on n'a jamais raison contre un journaliste. On mentira sur toi, on t'injuriera.
Déjà à l'époque ?
Ne te donne pas la peine de répliquer, la rectification qu'on te fera passer sera pire que le mal qu'on t'aura fait. Une troisième chose va te sauver des deux premières. Il n'y a pas plus paresseux qu'un journaliste, et chaque fois que tu lui auras mâché le travail, il le préférera à celui qui l'a fait lui-même. Et tous les jours de ma vie, j'ai vérifié ça.
J'allais le dire là, ça se vérifie un tout petit poil.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a n'importe quoi qui sort, positif, négatif, peu importe, une erreur ou pas, personne ne vérifie rien, et ils sont 90, maintenant qu'il y a des réseaux avec des sites, à reprendre à la virgule près
oui, ça,
tous les trucs. Mais vous
ça,
pensez
c'est
quoi
rare,
de
rien
ça
de rectifier. C'est-à-dire que...
Cette nouvelle société-là.
Malraux disait « Les terres sont de sable où s'efface le pas des vainqueurs », et il en est de même dans la presse. Si on réplique, on alimente la polémique. Mmh. Comme de toute façon les choses passent, d'autres le lendemain les remplacent, il faut ne pas se fatiguer à répliquer.
C'est la politique ou c'est le journalisme qui vous a rendu avec ce dos de canard qui prend les gouttes d'eau comme si elles glissaient ?
Ni l'un ni l'autre. C'est le fait de vivre dans une famille de héros. Quand on a un père résistant dans son maquis de Champeau, une mère résistante dans son maquis des Montagnes Noires, quand on est dans une famille où la seule chose qui compte, c'est la France, c'est le pays, c'est de faire des choses pour lui, tout d'un coup, on se dit quand même que...
Mon oncle était résistant. C'était le dernier tué à Marseille, il avait 23
ans. Ah oui ?
Ouais, il y a une plaque. Il y a une plaque.
Il s'appelait...
Il s'appelait Jean-Jacques Charlet.
Ah, ouais. Très bien.
Et c'était le dernier tué à Marseille. Il était très beau gosse.
Il y a des photos qui sont éditées sur les réseaux où on voit des jeunes résistants de 20, 22 ans, des hommes, des femmes.
Bah aujourd'hui,
à chaque fois, je regarde ces photos.
Et aujourd'hui en Ukraine.
C'est magnifique.
Aujourd'hui en Ukraine. À quel âge vous avez été passionné par l'opéra ?
C'est assez tard dans ma vie. Parce que mes parents, qui étaient d'origine modeste... C'était pas l'opéra. On allait voir une opérette à Noël, genre Violettes impériales, La Route fleurie...
Ah oui, des vraies
voilà,
opérettes.
Des vraies opérettes. Je me souviens, il y avait Marcel Merquès, Paulette Merval...
Ah oui, bien sûr.
Où il y avait...
Guitari.
Pierrette Bruno et...
Non mais Paulette Merval et Marcel Merquès, c'était des...
C'était vraiment des stars.
C'était la caricature en plus totale de...
Ah oui, complètement kitschissime.
Oui, oui, oui.
Kitschissime. Et c'est un ami, à qui d'ailleurs j'ai dédié un de mes livres, parce qu'il est mort du sida, et c'est lui qui m'a amené à cet engagement très fort pour combattre le sida, Christian, qui m'a emmené à Vérone. Et ça, c'est le choc amoureux. Je suis dans les arènes de Vérone parce que ce qui est extraordinaire, c'est que... Oui, parce que pour
j'ai
les Français, c'est un spectacle élitiste, l'opéra. Et quand on est à Vérone, ouais. Si vous êtes allé à Vérone, vous voyez
Carmen.
Les gars qui cuisinent sur leur réchaud... Mmh.
Enfin,
sur...
pas dans les arènes.
Si, moi je l'ai vu dans les arènes, et qui allument
ah
le...
Ah non, mais vous étiez au barbecue de la semaine... Non
parce que moi, je suis Non, j'étais
voir...
pas au barbecue.
Moi, je suis allé voir à Carmen, il n'y avait pas de gars qui faisaient des saucisses, hein.
Moi, j'en ai vu.
Sûr que vous étiez à Vérone et pas...
Ah oui, non, j'étais sûr que j'étais à Vérone.
À Saint-Ploutec ?
Non, j'étais sûr que j'étais à Vérone, c'est sûr.
Et moi, j'ai vu Carmen à Vérone, qui dure quand même un certain temps.
Oui, c'est pas le plus long.
Alors, il est long quand même.
Je vais vous emmener voir Parsifal, vous allez...
Non, non, merci. Non, c'est très gentil, mais non, parce que 3 heures déjà, ça me va. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait une pleine lune. D'habitude, la lune fait une espèce d'arc de cercle, et elle est montée verticalement. Derrière la scène, c'était absolument inouï.
Ah
jusqu'à
ouais.
La fin du spectacle,
comme
c'était incroyable.
Comme dans un élément de décor.
Ouais, 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 c'était incroyable. C'était
et qui
incroyable.
Chantait Carmen ?
Oh, ya, 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 ya.
Oui, d'accord. C'était la question piège, j'étais sûr que vous ne vous en souveniez pas.
Ah, c'est certain. Vous venez de faire un succès avec votre bouquin ?
Un grand succès,
c'est-à-dire
oui. Bah écoutez, j'en suis là à 65 000, ce qui pour un livre politique est
formidable.
Tout à fait,
aujourd'hui,
tout à fait extraordinaire. Surtout qu'en ce moment, les éditeurs s'inquiètent beaucoup.
Alors, c'est un livre politique ou c'est un livre parapolitique ?
C'est un livre politique.
La promo,
disons le mot, c'est un livre politique.
La promo, la vente, c'était Roselyne Balance, en gros.
Oui, et c'est d'ailleurs très réducteur.
Oui, c'est pour ça que je vous en parle.
C'est un livre qui emmène les gens dans le ventre du monstre.
Mais parce que ceux qui l'ont acheté pour Roselyne Balance ont forcément été un petit peu déçus, parce qu'en gros, vous balancez un peu, mais vous balançouillez.
C'est pas le cœur du livre.
Non.
Mais j'ai essayé dans quelque chose qui est compliqué, c'est-à-dire d'emmener les gens dans le fonctionnement intime d'un ministère et d'un ministère mythique, le ministère de la Culture. J'ai évidemment pimenté ça là, j'ai mis un petit peu de piment sur des histoires qui sont assez parfois techniques, assez intellectuelles. J'ai pimenté ça avec quelques anecdotes, mais dont j'ai essayé qu'elles soient, enfin, dont j'ai voulu qu'elles soient toujours signifiantes. Hein. C'est pas plaqué comme des
cheveux
sur la soupe.
Vous êtes tombé au bon moment pour être à la culture ?
Oui, je suis tombé au bon moment parce que j'ai été un ministre de la Culture extraordinaire. Si à mon âge j'étais rentré pour faire une carrière, c'était absurde, et pour être le ministre de la Culture qui assiste aux premières et qui sert la louche des stars au Festival de Cannes, c'est amusant. Enfin, bon, très bien, on peut le faire d'une autre façon. Mais j'ai eu le sentiment que oui, j'étais là pour sauver la culture, et je l'ai fait.
On peut rappeler les années ?
De juillet 2020. À mai, fin mai 2022.
D'accord, vous êtes donc...
682 jours.
Ouais, oui, bah les fameux. C'est juste les années Covid, quand même.
C'est les années Covid.
Donc personne n'a vécu ça avant vous.
Jamais, et je dois dire que...
Mais vous vous dites quoi ?
C'était un rêve d'être ministre de la Culture, quand même, je sais pas...
Ah oui, c'est ça, parce qu'on avait dit, c'est fini. Vous aviez dit, d'ailleurs,
voilà,
vous-même.
Voilà, je l'avais dit.
C'est fini, la politique, c'est fini, voilà.
Mais quand Jean Castex me le dit le soir, un fameux vendredi soir, il me dit, tu viens avec moi, tu repars avec moi au gouvernement, je lui dis non. Et là, le salopard, il me fait, et si c'est pour la culture ? Je veux dire, si c'est pour la culture, c'est oui.
Vous êtes faible.
Ah oui, j'ai aucune volonté.
Non,
Ah non, mais on m'appâte avec trois fois.
Ah, c'est ça, c'est ça.
Ah oui, oui, non, mais vraiment, c'est difficile.
Et vous avez vécu ces années-là comment ? Avec plus ou moins de bonheur quand même, parce que vous êtes fait un peu allumer ici ou là.
Ah oui, mais
alors
ça,
que vous
c'est
aviez
normal,
des...
c'est normal.
Oui, enfin, c'est normal, mais vous en parlez dans votre bouquin, ça a dû vous heurter un petit peu. Vous parlez de Benjamin Biolay, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a avec Benjamin Biolay ?
Mais il n'y a rien.
Si.
Il n'y a rien. Non, mais simplement.
Vous le citez, entre autres.
Fait, mais c'est pas moi qui l'ai attaqué, c'est lui. Hein. Quand il monte sur la scène, c'est pas l'artiste le plus malheureux du showbiz.
Je crois
hein.
pas, non.
Non, il va pas au resto du cœur. Il y a eu des gens qui ont vraiment souffert.
Absolument.
Et quand il monte sur la tribune des Victoires de la Musique et qu'il, s'adressant à moi, qui suis dans l'ombre des spectateurs, il dit que je l'ai mis au pain sec, j'ai répondu simplement que sa tartine de pain sec était beurrée des deux côtés. Il n'y a pas mort d'homme.
Ce qui est plutôt une jolie réponse.
Voilà. Et il s'est senti blessé. Moi, je vais vous dire...
Il a du talent, le mec, en plus.
Mais j'adore Benjamin
Biolay. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'aimais beaucoup jusqu'au jour où il a dit...
Je ne l'ai jamais attaqué sur ses qualités artistiques d'acteur. Parce que c'est
très bon acteur aussi.
Oui,
oui, tout à fait.
De compositeur,
ouais,
d'interprète,
super.
Mais non.
Et il vous a tapé dessus à un moment donné. Oui, effectivement, il n'était pas...
Mais, vous savez, j'ai j'ai pardonné le terme.
Oui.
Oublié,
voilà.
Excusé, parce que je sais aussi que même quand on gagne beaucoup d'argent comme Benjamin Biolay, rien ne remplace le contact avec le public.
Mm-hmm.
Et que cette souffrance-là...
Oui, mais il n'était pas le seul.
C'est d'ailleurs, ça a été le problème dans cette épidémie de Covid, c'est cette rupture de l'artiste, du spectacle vivant avec le public. Bon. Mais ça, je suis capable de le comprendre, parce que moi, je vis dans un milieu d'artistes, je suis quelqu'un qui sort tous les soirs...
Encore maintenant ?
Au théâtre, non, mais bien sûr.
Vous recevez encore des invitations. Parce que nous, dans notre métier, quand on n'est plus à la télé, du jour au lendemain, il n'y a plus de bouquins, il n'y a plus d'avis, il n'y a plus rien. Vous, ça continue ?
Ah, ça continue, puis moi, je paye mes places aussi. Hein.
Oui, oui, non, mais oui, j'imagine.
Ah,
oui, il paraît que d'ailleurs, de ce côté-là, ça va très bien. Vous êtes fortuné ?
Je gagne bien ma vie.
Oui ?
Je gagne bien ma vie.
Et vous l'avez toujours gagnée toute seule, comme une grande ?
Comme une grande et...
Oui.
C'est bien,
ça ouais, va c'est bien.
Puis j'ai la chance, dans ma vie, d'avoir un vrai métier. Je suis docteur en pharmacie.
Plusieurs métiers, mais le premier, c'est celui-là.
Le premier, vous savez, moi j'ai commencé en gagnant ma vie, je suis rentré dans une entreprise, j'avais 20 ans.
Mmh.
Et j'ai commencé mes études, j'en avais 30.
Ok.
Donc c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix d'adulte. Quand on s'assied sur les bancs d'une fac à 30 ans et quand on sort major de sa promotion et qu'on a des gamins de 17 ou 18 ans qui vous disent « on voit que vous êtes vieille ». Ah oui, je dis « ah bon, pourquoi ?» Parce que vous vous voyez. Mais ce diplôme, je l'ai acquis de haute lutte. Et ce métier, c'est un métier que j'adore, parce que quand on est...
Juste pour que les gens comprennent, c'est quoi la différence entre un docteur en pharmacie et un pharmacien ?
Docteur en pharmacie, c'est mon diplôme.
Oui, mais... Donc vous...
C'est-à-dire, il y a une différence, parce qu'à un moment, les pharmaciens ne faisaient pas un doctorat.
Oui, mais ils étaient quand même pharmaciens.
Ils étaient pharmaciens.
Mais vous,
moi, je suis
avec
pharmacienne
vous...
et docteur
oui,
en pharmacie.
Oui, mais vous êtes docteur, mais vous ne pouvez être que pharmacienne, en gros.
Enfin, oui, oui, bien sûr.
Et ça vous a jamais tenté de monter une petite échoppe ?
Ben, si, j'en ai eu.
Ah, vous l'avez eu ?
Bien sûr.
Où c'était que c'était ? À Nevers ?
À Angers. À Angers, oui, tout à fait.
Ça marchait bien ?
C'était la 7e pharmacie de France.
Ah oui, ça marchait bien. Ah oui, oui. Eh, ça gagne bien, il paraît.
Ça gagne, mon bon monsieur.
Mais oui, ça gagne. Hein.
Ça gagne presque autant qu'un gars qui se fait de la télé.
Oh, ça gagne peut-être même plus en ce moment.
Ben, peut-être.
En ce moment, ça, je vous garantis que, ça gagne, que ça gagne mieux. Vous étiez une femme de droite, mais vraiment de droite ? Pas vraiment de droite.
Mais qu'est-ce que vous entendez par une femme de droite ?
Bah, une femme de droite qui est plutôt dans un gouvernement avec des gens de droite, qui défendent des lois plutôt
C'est-à-dire
de droite.
C'est-à-dire que vous me cataloguez par rapport à d'autres personnes, non, mais pas par rapport
non.
à mes engagements personnels.
Non, mais je ne vous ai jamais entendu prôner des... Vous êtes une humaniste, certainement, c'est sûr. De toute façon, on n'est pas pharmacien. Oh, si, il y a des pharmaciens qui sont un peu épiciers, mais on devient pharmacien et docteur en pharmacie si on pense un peu aux autres. Donc, j'imagine que c'est votre cas. Mais vous avez été
non,
toujours...
Non, mais je crois en certaines valeurs qu'on peut cataloguer de droite, et encore...
Mais ça veut dire quoi, aujourd'hui ?
Ben justement, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça ne veut plus ?
Ça ne veut plus dire grand-chose. C'est sûr que... Issu d'une famille gaulliste, le gaullisme avait réconcilié la droite et la gauche. Mmh. Mon père venait du Parti communiste et ma mère de la démocratie chrétienne. Et il se rend compte dans quoi ? Il se rend compte dans le RPF. Moi, mon père m'amène... J'ai...
Pour ça, le RPF, là, ceux qui nous écoutent, ils étaient loin d'être... Même... Je crois que même que leurs parents n'étaient pas nés.
Le RPF... Rassemblement du
ouais,
peuple
ouais,
français.
Ouais, c'est vieux.
C'est le parti que fonde le général de Gaulle.
Après la guerre,
le Rassemblement du peuple français, et j'assiste à ma première réunion politique, j'ai 9 mois et demi dans les bras de mon père, ce qui était la maison pour tous, la maison de la culture de Bourges, et le général de Gaulle m'embrasse sur la joue, j'ai 9 mois et demi. C'est ma première réunion politique.
Mais en fait, c'est drôle parce qu'il y a un nombre de politiques avec lesquels on peut parler, à la télé ou ici, qui ont baigné dans un univers politique à la maison. Je n'ai pas les noms qui me viennent tout de suite, mais on a plein d'exemples de gens qui avaient des parents politisés et qui baignaient dans... Alors, l'une dit « Ah, aujourd'hui, c'est le jour de la cellule. » Marlène Schiappa a baigné là-dedans. Bon, alors, elle l'a fait.
Mais c'est vrai, parce que la politique...
C'est comme les pilotes de Formule 1 qui sont montés sur des cartes à 5 ans.
La politique apparaît pour beaucoup de Français comme un monde étrange, un monde dont ils n'auraient pas les clés d'accès. Effectivement, quand on regarde les gens qui font de la politique, c'est très rare d'avoir d'être dans une famille absolument dépolitisée.
Aujourd'hui ?
Ah ben là, même dans une famille qui a été politisée, maintenant les gens ont envie de faire de la politique, c'est bien ça le problème.
Qui a tué, comment elle s'est tuée un peu cette politique ? On a l'impression qu'en 10-15 piges, elle s'est délitée.
Oh, c'est vraiment, les causes sont multiples. D'abord,
je pense
que les clés du monde sont de plus en plus difficiles à appréhender. Dans un monde connecté, mondialisé... arriver à expliquer le monde de façon intelligible est extrêmement compliqué. Ensuite, politique, c'était une promotion sociale. Quand mon père, fils de paysan, ma mère, fille d'une ouvrière analphabète, pensait politique, c'était pour eux une vraie promotion. Maintenant, si vous voulez faire de l'argent, avoir une respectabilité sociale, il ne faut surtout pas faire de politique. Il faut rentrer dans les affaires.
Gagner de l'argent beaucoup. Sinon, ils sont plutôt bien payés. Y compris les gens de l'FI, par exemple.
Mais bien sûr.
Qui ont des salaires largement supérieurs.
Oui, mais je veux dire que, bien sûr, c'est des très bons salaires par rapport à l'ensemble des Français. Mmh. Bien sûr, je ne suis pas complètement idiote.
Ah, j'ai pas dit ça. Hein.
Ah oui, d'accord, mais j'espère.
Ah non, je ne l'ai même pas sous-entendu. Hein.
D'accord,
ok. Non, mais je ne l'ai même pas pensé. Hein.
Mais je veux dire que si vous avez un diplôme d'enseignement supérieur et que vous voulez faire une carrière dans n'importe quelle profession libérale ou être dans le monde de, la, de l'économie, vous gagnerez plus d'argent.
Oui, mais il faut avoir un diplôme supérieur aujourd'hui pour faire de la politique.
Non. Mais si vous avez, effectivement, pour quelqu'un comme moi, ça représentait un sacrifice financier de faire de la politique.
Et aujourd'hui, vous avez quel regard sur, sur ce qui se... Parce que vous exprimez beaucoup, vous vous exprimez avec un avis certain, le vôtre, mais est-ce que vous le retrouvez quelque part, cet avis ? Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous le... Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
On a l'impression qu'on entend...
Est-ce que vous vous retrouvez dans un... Il est certain, est-ce que vous vous retrouvez dans tel ou tel parti politique ? Il est certain que je ne me retrouve ni dans le Rassemblement National, ni dans la France Insoumise.
Ça, c'est fait.
Je ne suis ni dans les idées de, la, de l'extrême droite,
il reste Renaissance
ni dans, dans une démocratie de, comment dirais-je, de rupture, de combativité, où le compromis est absolument impossible. Mais j'ai mené des combats avec des socialistes, j'ai mené des combats avec les républicains, j'ai mené des combats avec les macronistes, mais je suis aujourd'hui d'aucun parti. Il y a 10 ans que je n'ai pas de carte de parti.
Mmh. Ah oui, vous êtes sans carte, bien sûr.
Bien sûr.
Vous pensez que ça va être quoi, le monde de demain, d'après-demain, politique en France, en vrai ? Si je vous dis, tiens, regarde, on met un billet de 10 là, que vous pariez que ce sera quoi ?
L'élection d'Emmanuel Macron m'a montré qu'on ne pouvait plus parier sur quoi que ce soit.
Parce que
tout peut se passer.
Parce que
vous savez, quand,
la dernière,
quand j'arrive, moi, c'est Jean Castex qui m'a recruté dans ce gouvernement. 2 jours après, j'ai rendez-vous avec Emmanuel Macron. Et je suis...
Que vous connaissiez.
Dans la, que je n'avais jamais vu.
D'accord.
Bon, que je ne connaissais pas.
D'accord.
C'est Jean Castex qui m'a recruté. Et je suis en face de ce garçon... qui est plus jeune que mon fils, dans un Élysée totalement modernisé. On a bazardé les bureaux Louis XV, les bergères avec des garnitures à fleurs, etc.
Ça vous choque ?
Il y a que... Non, bon, j'adore ça, mais le changement est déjà absolument impressionnant. Et en face de moi, il y a un gamin pour moi,
puisqu'il
est plus jeune que mon fils. Avec sa mèche blonde, les dents du bonheur, la chemise ouverte. Je me dis, mais c'est pas possible que les Français aient élu ce président. Il est tellement dissonant, disruptif par rapport à l'idée qu'on se fait d'un personnage politique, d'un président de la République. Et les Français ont été capables d'élire ce jeune homme. Et je me suis dit que tout est maintenant possible dans la politique.
Faut le prendre comment, ça ?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de plan sur la comète et de dire voilà ce qui se passera en 2027.
Oh, vous avez un peu de bouteille quand même.
Oui, mais justement, j'ai l'impression que l'expérience que j'ai m'empêche peut-être de voir le monde tel qu'il est. J'essaie d'éviter de raisonner à partir de mes présupposés parce que je crois qu'ils ne valent plus grand-chose.
Générationnellement ou parce que ce monde trop bizarre change à une vitesse insuivable ?
Les deux. Je regarde le monde. Quelquefois, j'arrive chez moi et je me dis, mais j'utilise des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans.
Et comment on faisait ?
Et comment on faisait ?
Bon, on le faisait.
Et c'est cela,
c'était moins vite.
C'est cela qui est troublant.
C'était moins vite. C'est juste que c'était moins vite.
Jamais la vie n'a autant changé...
Qu'en 10 ans, 15 ans.
Dans notre époque.
Comme le climat. Tout va avec. C'est exponentiel, en fait. Le climat, ça fait 40 ans que j'entends, à juste titre, que c'est un drame. Et aujourd'hui... N'ayant pas fait ce qu'il fallait, personne, en tout cas à petite dose, qui ne servait pas du tout à ce qu'il fallait faire pour sauver cette planète qu'on a bien mis dans la merde, parce que je ne sais pas ce que les générations futures vont connaître, mais ça ne va pas être top.
Mais vous savez, Christophe, en 2002, je suis donc ministre de l'écologie. En 2003, il y a la canicule. Et je dis, en sortant de la canicule, je dis à la fin de ce siècle, l'été 2003 nous apparaîtra frais.
Mais c'est ce que disent les spécialistes sur l'été dernier, en disant que ce sera le plus frais, sera le plus frais de tout ce qu'on va connaître.
Je me suis fait moquer par l'ensemble de la classe journalistique. Je me souviens d'un journaliste de RTL qui a fait 10 minutes sur cette déclaration en me disant que j'étais une mamie zinzin, une gourdasse, etc. Affreux.
Mais comment vous pouvez aujourd'hui... entendre, et puisque vous avez eu ce poste, des gens qui continuent à ne pas y croire. Et des gens qui ne sont pas les derniers des abrutis.
Vous savez, On entend tous les jours sur le plan scientifique des choses tellement ahurissantes. On a eu les anti-vax, on a eu des théories du complot.
Qui continuent.
Moi, quand je me suis fait vacciner sur la grippe H1N1, tout un groupe dans la complosphère a dit que je m'étais fait injecter de l'eau distillée.
Ah, mais ils ont fait pareil pour Véran, Macron, etc.
Exactement. On injectait des puces électroniques dans...
Là, on a la 5G. Moi, je suis en direct avec l'Élysée. Là, je l'ai dans l'oreille,
oui,
direct.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Bien sûr.
Tout à fait.
Oui. Mais c'est fou parce que ça prend une ampleur considérable, en fait. Et c'est extrêmement dangereux. Et là, en ce moment, il y a une histoire, par exemple, sur le réseau, je ne sais pas si vous êtes au courant, un garçon qui s'appelle Flibustier, qui fait du quatrième degré depuis des années, qui balance des fake news pour se moquer, justement, de ceux qui font des fake news.
Et qui reprend
les gens. Et les gens lui disent, ouais, mais en fait, t'entretiens le complotisme. Alors qu'il dit, non, j'essaie juste d'ouvrir les yeux pour montrer combien c'est débile. Et les gens, bon, qui en général sont plutôt du côté des complotistes, lui disent, non, mais en fait, c'est ta faute, c'est toi qui entretiens ça. Est-ce que le complotisme, quand vous étiez jeune journaliste, par exemple, ça existait à ce point?
Le complotisme a toujours existé. Quand on regarde l'histoire de France, on voit bien que le complotisme existait et qu'on a toujours utilisé les peurs. J'allais dire que d'une certaine façon, les religions ont été des nids de complotistes.
Mais vous parlez d'un truc
intéressant. Maintenant, c'est la diffusion par les réseaux sociaux,
oui,
qui permet une sorte de contamination massive.
Y compris des jeunes. Ce qui n'était pas forcément la clientèle du complotisme, et qui l'est maintenant.
Oui, et puis, c'est ce que je disais au départ, cette difficulté de comprendre le monde, d'un monde de plus en plus complexe, les complotistes vous donnent des clés de compréhension toutes. Tout à coup, des phénomènes compliqués deviennent clairs. C'est ça la force du complotiste.
Même s'ils sont complètement cons.
Complètement cons.
Ouais. Mais c'est flippant un peu quand même, non? Vous dites que vous avez un fils qui est donc... qui doit avoir 40 et quelques.
Non, qui en a 52.
Ah oui, bah vous ne les faites pas, hein, une fois de plus. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon?
Il est historien.
Ah oui, bah, remarque, oui, les chats font pas des chiens. Comment ça se fait que vous avez autant de culture historique? C'est venu comment? Parce que pharmacienne, a priori, vous avez
oui,
des connaissances scientifiques.
Oui, parce que les pharmaciens sont des crétins,
non,
qui sont bons qu'à vendre de l'aspirine.
Non,
oui, c'est ça, d'accord.
Mais non, mais...
1,50€.
J'aime beaucoup les pharmaciens.
Surtout les pharmaciennes.
Très drôle, formidable. Surtout depuis qu'ils distribuent des capotes gratuites.
Gratos. Grâce à qui?
Grâce à Kiki. Voilà. Oui, mais... Est-ce que j'ai raison d'être fier de ça?
Oui, j'ai raison.
Merci, ça me fait très plaisir.
J'applaudis.
C'est grâce à Brigitte et quand même au président.
Oui,
qui a suivi les avis qu'on lui donnait.
C'est très bien.
Ouais, je vous
remercie. Vous savez, je préside toujours le fonds, collecte des fonds pour l'association Aide. C'est un des engagements de ma vie, puisque je préside 14 associations humanitaires et caritatives. Et donc, je suis très mobilisé sur ces sujets.
C'est très bien. Et si je peux vous aider, il ne faudra pas hésiter.
Ah ben, ça ne tombera pas dans l'oreille d'une sourde.
C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, même déjà. Quand est-ce que vous allez lâcher la rampe? Alors non, cette expression n'est pas du tout la bonne, parce que normalement, ça veut dire que c'est une chose assez définitive. Mais quand est-ce que vous allez vivre votre vie à vous? Est-ce que vous avez envie de ça?
Mais je vis ma vie à
moi. Ah non, tu ne peux pas, tout ce que vous faites. Vous faites de la radio, vous faites de la télé, vous occupez de 16 associations, vous écrivez vos livres. Non, vous n'êtes pas en train d'être en oisiveté admirative devant je ne sais quelle...
Oh, quelle horreur.
Ah, c'est ça.
Quelle horreur.
Vous mourrez active.
Ah oui, ça me paraît impossible, sauf évidemment si mes forces m'abandonnent, et ça peut toujours arriver, forces intellectuelles ou forces physiques, mais je crois que j'adapterai les choses à ce que j'adapterai mes activités, je n'imagine pas
d'être... Ne pas faire fonctionner tout ça.
Ah ouais. Oui. Ah non, mais attends, ça ne veut pas dire que dans cette vie, je ne me ménage pas des plages de plaisir. Enfin, je ne vais pas à l'opéra, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au concert ou au théâtre par devoir. C'est formidable.
Ah oui,
moi, je vois des acteurs sur une scène. Je suis allé voir, là, en attendant Godot, à la Scala, boulevard de Strasbourg, dans la mise en scène de Françon, André Marcon, un acteur, mais extraordinaire. Mais j'étais dans un état d'extase absolue. Moi, je vois des gens sur une scène.
Est-ce que vous avez vu
Je m'ennuie jamais.
Est-ce que vous avez vu Les Idoles?
Non.
Ah, ben si ça
il
se rejoue.
Il faut y aller.
Ben oui, si ça se rejoue, il faut y aller. C'est absolument magnifique. Il faut vraiment aller la voir. Quel homme politique aujourd'hui ou femme politique vous admirez le plus? Ça veut dire qu'il faut que vous en admiriez un ou une.
Oui. J'ai, j'ai un... Bon, Emmanuel Macron est quand même un personnage tout à fait singulier, extraordinaire,
comment vous expliquez,
dissonant, disruptif.
Comment vous expliquez cet anti-macronisme à ce point?
Ben, il est trop. Il est trop beau, il est trop intelligent, il est trop différent. Et c'est...
Pourquoi les gens le trouvent si loin d'eux?
Mais oui, c'est très curieux parce que...
C'est pas votre avis?
Non, c'est pas mon avis, mais je comprends qu'ils le ressentent de loin. Parce que les présidents de la République, c'est très curieux, parce qu'à ce moment-là, le général de Gaulle était extrêmement lointain. Pompidou avait un cursus, c'est pas la même époque, évidemment.
C'était les Glorieuses, tout le monde avait de quoi becquer, tout le monde avait gagné sa vie, tout le monde... Après-guerre, c'est quand même...
Vous savez, quelquefois, je pense à ma grand-mère, Corentine. J'ai écrit un livre sur elle, qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès. Et elle a été placée domestique, vendue domestique à 7 ans. Et quand on avait le droit de placer les enfants à 10 ans, et donc le maire est allé dire à mon arrière-grand-père qu'il fallait qu'il reprenne sa fille chez le marchand de chevaux à qui il l'avait vendue.
Vendue.
Et elle lui a dit, quand il est venu la chercher, « Non, ici je mange à ma faim ». Et quand elle a été ensuite placée domestique, elle s'est placée domestique à Paris, elle s'est mariée, son mari est mort à la première bataille de la Marne, et elle s'est placée dans une usine d'armement où elle a mené le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des salaires. Elle militait à la CGT. Et quand je pense à ma grand-mère maternelle, je me dis, mais comment peut-on dire que c'était mieux avant?
Non, économiquement, les Trente Glorieuses ont été plus faciles qu'aujourd'hui.
Mais même les Trente Glorieuses, les gens avaient du travail. Inégalités étaient plus profondes, les gens avaient du travail, mais il y avait aussi des tas de choses qui ne marchaient pas dans la société. Les homosexuels étaient...
Je ne vous parle pas de toutes les choses.
Ah, mais oui, mais enfin,
je suis d'accord. Non, mais vous avez raison. Vous philosophiquement, on était arriérés, on était moyenâgeux. Est-ce que vous avez un pire souvenir? C'est une question que je déteste qu'on me pose, moi. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir et un pire souvenir dans tout ce que vous avez fait, pharmacienne, politique, ministre, écrivain?
Dans tout ce qui a relevé de moi, je n'ai pas de pire souvenir. Évidemment, je suis comme tout le monde, c'est d'une banalité quand on perd les gens qu'on aime. Ce sont les pires souvenirs. Rien n'est au-delà de ça. Les choses de la vie courante, les échecs de la vie courante, comme dit l'autre... Oui, soit on réussit, soit on apprend.
Est-ce que vous n'avez pas envie d'ouvrir votre bouche un peu sur... ayant été ministre de l'écologie et du développement durable, est-ce que vous n'avez pas envie d'ouvrir un peu votre bouche là? Parce que, est-ce que vous avez ce sentiment que les gens ont les yeux en face des trous? Parce que vous avez été raillé lorsque vous avez dit ce que vous avez dit à la canicule de 2003.
Je n'arrête pas d'ouvrir ma bouche, comme vous dites, pour dans les émissions auxquelles je participe sur le réchauffement climatique et la nécessité de le combattre. Ce que j'essaie, c'est de tenir un langage de vérité. C'est qu'on n'y arrivera pas seulement en triant ses déchets et en fermant bien l'eau du robinet.
Non.
C'est qu'il va falloir changer radicalement de mode de vie.
J'ai discuté avec un jeune homme l'autre jour qui a un super site, Super Green Me, c'est un garçon qui s'appelle Lucas Caltritti, qui me racontait et qui me disait, par exemple, que ça n'a aucun intérêt l'eau du robinet, ça n'a aucun intérêt le tri, mais par exemple, lui, il prend plus l'avion. Mais se dire que pour sauver la planète, les choses les plus importantes comme voir l'autre monde, ou d'autres mondes, c'est difficile d'y aller autrement qu'en avion, sauf si on reste en Europe, évidemment. Mais vous vous rendez compte du changement profond que tout d'un coup, on doit imposer, mais de toute façon, il va bien falloir. Sinon, tout le monde va mourir, en gros.
Quand je regardais les militants, les jeunes qui suivaient les marches pour le climat à l'initiative de Greta Thunberg, et je discutais un jour avec un de ces jeunes... je dis, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous croirais quand, à la fin des manifestations, vous ferez passer du corbeil et que vous y jetterez votre téléphone portable. Avant, vous ne m'intéressez pas. C'est ça.
Non, mais je sais que c'est ça. Mais sans ça, ces mouvements pourraient-ils exister? Enfin, je veux dire...
Oui, mais...
C'est la merde, tout ça.
Voilà. C'est des changements, ils sont absolument, absolument incroyables. Les changements qui nous attendent sont d'une violence et d'une ampleur qu'on n'imagine pas.
Et par exemple, dans les
rues. On essaie de nous vendre une écologie heureuse, mais ça n'existe pas.
Non, elle sera forcément brutale.
Elle sera brutale,
pour
elle
notre
sera
vie.
Violente,
oui.
Et elle nous obligera à renoncer à des choses auxquelles nous tenons.
Et par exemple, moi j'étais persuadé que renvoyer un mail ou dire OK à une réponse de mail était très mauvais pour l'environnement, et ce jeune homme dit, pas du tout, ça n'a aucun intérêt.
Oui,
c'est
rien. L'épaisseur du trait.
Voilà, d'un petit trait.
C'est tout à fait la vérité.
Oui, mais
on mobilise.
Mais ça veut dire quoi? Mais t'imagines,
voilà,
ça veut dire supprimer les avions, supprimer les cargos.
Mais on fait un rideau de fumée en persuadant les gens qui sont bons, qui sont utiles, et on les berlure avec ce genre de choses pour leur cacher l'essentiel.
Mais comme on ne fera pas l'essentiel, on va tous mourir, donc.
Posez une bonne question, là. De toute façon, je vais vous faire une annonce.
On va mourir.
Tous mourir.
Oui.
D'accord.
Ça dépend quand.
C'est
oui, non mais nous deux, on ne verra pas le cataclysme. Mais je veux dire, on ne fera pas. S'il suffit qu'un pays dise non, moi je fais des avions, non, moi je fais mon fret, moi je fais... C'est fini.
Oui, oui.
Il n'y en a pas un qui s'arrêtera. Donc, c'est inéluctable cette histoire. Enfin, c'est un truc de ouf. Quand j'étais petit, on parlait de la fin du monde. D'abord, on parlait de l'an 2000, on irait à l'école sur des voitures à coussin d'air. Bon, ça, dans le cul
du... Ça devrait arriver, ça.
Non, mais en l'an 2000, non, c'est pas arrivé.
Ah oui, non, mais enfin...
Non. Mais c'est... quand j'étais petit, c'était ça. Je me disais, à 43 ans, j'aurais une voiture sur coussin d'air. J'étais persuadé de ça. Et aujourd'hui, on a l'impression...
Je me dis qu'on va avoir une dépression démographique.
On va avoir des guerres pour la flotte épouvantable.
Inattendues, on aura des conflits... Parce que quelque
pour
part,
la fin
le conflit
ou pour l'eau.
En Ukraine, c'est la préfiguration de choses qui vont se passer.
Vous
on
exprimez
aura des batailles
là-dessus.
Pour l'eau, pour les matières premières absolument
c'est ce qui est pire.
Incroyables.
C'est dur d'être optimiste.
Optimiste pour
c'est-à-dire
soi,
avec un peu de lucidité. Sur l'avenir, non, sur nos mômes, sur nos petits mômes, sur nos... C'est compliqué, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme merde.
La vie est tragique. C'est pour ça qu'il faut rire.
Elle l'a toujours été.
Elle a toujours été.
Elle n'est pas un peu plus aujourd'hui?
Non.
C'est différent, c'est tout. Je suis ravi de vous avoir reçu. Portez-vous bien.
Merci, vous aussi.
À bientôt, Roselyne.
À bientôt, Christophe.
Roselyne Bachelot. Et je chante même. De Chavelle cherche copain. De Chavelle cherche copain.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.